Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Pour beaucoup des auditrices et auditeurs, le mot « jeu vidéo » évoquera sans doute de façon immédiate des images de jeux de guerre violents, où le joueur abat froidement à la première personne des centaines d'ennemis dans une grande violence. Pourtant, le jeu vidéo n'est pas qu'un support qui permet d'être dans l'action ou la violence, même lorsqu'il s'agit de jeux de guerre. Il y a en effet des jeux de stratégie et de simulation qui comportent une dimension bien plus intellectuelle, sans nécessiter des performances graphiques importantes. La joueuse ou le joueur décide des manœuvres à accomplir, des tactiques à mettre en œuvre, et regarde se dérouler le résultat de leurs décisions. Si ces jeux sont désormais bien plus ergonomiques et accessibles, ils furent longtemps réservés à des passionnés qui pouvaient lire des notices de plusieurs centaines de pages avant de se plonger dans le jeu. Cette tribune des jeux de Michel Bidlowski et Pierre Gioux, extrait d'un numéro de Panorama et diffusé pour la première fois le 1er mars 1988, offre une courte présentation de la diversité, mais aussi des limitations de ces logiciels lourds et complexes. Une fenêtre vers les wargames du passé, donc, c'est tout de suite dans les Nuits de France Culture.
Actualité des jeux de réflexion, nous parlons aujourd'hui, Pierre Gioux, d'un certain nombre de logiciels de wargames sur ordinateur. Les ordinateurs s'y sont mis depuis un certain temps déjà, notamment dans les états-majors. Et à présent, c'est à la portée de tout le monde. On achète tout simplement un logiciel ou on se le fait prêter par un copain. Et puis, on le met dans son ordinateur. Et on peut ainsi jouer soit à HMS Cobra, soit à Gettysburg, soit à Kampfgruppe, soit à Mech Brigade. Il faudrait peut-être expliquer quand même de quoi il s'agit. Mech Brigade. C'est-à-dire Mechanical Brigade.
Brigade, c'est ça. C'est un jeu de conflit de Troisième Guerre mondiale, tactique.
Pas mechanical, mais mechanized, je crois. Mécanisé.
Et mécanisé, oui, c'est ça. Ça, oui. Jeu de combat tactique, tactique qui se passe entre les troupes de l'OTAN et celles du parc de Varsovie, dans un univers qui est celui toujours de la Main de l'Ouest. Ça n'a vraiment
ça
pas beaucoup
pas.
Changé.
Oui.
Alors, l'intérêt du jeu sur ordinateur, c'est d'abord de pouvoir jouer tout seul contre la machine. Mm-hmm. Et l'autre intérêt de l'ordinateur, c'est de ne pas avoir à se préoccuper de faire des calculs très, très compliqués pour faire les résultats de combat. C'est l'ordinateur qui s'en occupe. Et puis surtout, de ne pas avoir à déplacer des pions sur une carte. Et puis, ça évite, lorsqu'on a un chat chez soi qui vient traverser sa carte et renverser tous ses pions, d'annuler la partie. Et un autre avantage, comme les jeux de guerre sont généralement assez longs, autour de 20-30 heures pour une partie, là, on arrête la machine, on sauve le jeu et puis on peut reprendre.
En revanche, si le chat marche sur le clavier, ça ne marche pas non plus. Alors, il peut gagner.
il peut gagner.
On ne sait jamais.
Alors, l'intérêt de Mechanized Brigade, c'est que le joueur ne décide pas véritablement de ce qui va se passer sur le terrain. C'est-à-dire qu'il va choisir les grandes options stratégiques. Vous allez donc utiliser votre régiment en disant, vous donnez comme ordre général de prendre telle cote, de détruire telle unité, et l'ordinateur va obéir à ses ordres, et vos unités vont bouger et vont choisir leur cible et combattre contre les ennemis comme l'ordinateur le décide, c'est-à-dire en fonction en fait d'un espèce de système qui oblige, enfin qui permet de choisir des cibles prioritaires. Alors, d'abord on choisit telle cible, après telle cible, c'est l'ordinateur qui fait ce choix, donc vous pouvez pas décider vous-même de tirer sur telle unité. Alors ça c'est intéressant parce que généralement les joueurs de wargame ont toujours tendance à tout concentrer sur un point bien précis, sans se rendre compte qu'il est fort probable que dans la réalité, l'unité n'a pas les renseignements nécessaires pour pouvoir faire ce type d'opération.
D'accord.
Et de coordination.
Ce sont des points d'incertitude.
Voilà, ce sont des points d'incertitude, c'est-à-dire que les troupes que vous allez envoyer au combat ne seront pas forcément bien coordonnées.
Hmm. Alors, est-ce qu'il y a une prise en compte du contexte technique?
Alors, voilà,
le problème de ce jeu s'appelle quand même mécanisé.
Voilà, c'est ça, oui. Alors, le problème de ce jeu, c'est qu'il faut être un très grand connaisseur des armes modernes. Hmm. Donc déjà, c'est un jeu qui est quand même qui a un relent de militarisme assez développé, parce que chaque type d'arme a des avantages et des inconvénients. À partir du moment où on ne connaît pas les avantages et les inconvénients des types d'armes, on les emploie mal. Mais le jeu a au moins ça d'intéressant, c'est qu'on apprend à employer les types d'armes, si on peut dire que c'est intéressant, mais c'est un des buts du jeu en fait, de savoir que tel char est plus efficace à telle distance, tel type d'arme est plus, tel hélicoptère, il faut l'utiliser comme ça et pas autrement. Alors ça, ce serait intéressant. Malheureusement, le jeu a deux limites. La première limite, c'est qu'on ne tient pas compte des doctrines d'emploi des différents pays, à savoir avoir l'Allemagne de l'Allemagne de l'Ouest, l'Union soviétique, les États-Unis d'Amérique.
Parce que les doctrines militaires, c'est très important.
C'est très important parce que c'est ce qui conditionne finalement l'entraînement des officiers, c'est ce qui conditionne les mouvements et les manœuvres. Mm-hmm. Donc ça, c'est vrai que c'est le premier point.
Donc ça n'est pas pris en compte.
Ce n'est pas pris en compte. Donc ça, c'est un premier problème.
Le moral des troupes.
Et alors le deuxième problème, c'est le moral des troupes. C'est-à-dire qu'en fait, on se rend compte qu'on peut faire des attaques suicides, mais vraiment suicidaires, sans que les troupes se font décimer, sans broncher. Alors qu'on sait très bien que le moral, c'est quand même un des facteurs fondamentaux de la guerre.
Un des facteurs, vous croyez?
Un des facteurs fondamentaux de la guerre.
C'est le facteur, c'est pour ça que
c'est
fondamental.
Voilà, c'est ça, c'est le facteur fondamental de la guerre. Et je trouve que ça, c'est un peu gênant.
Oui,
c'est
d'autant plus... Kikonopniki n'a pas l'air d'accord.
Il faut dire que bien avant les ordinateurs, les états-majors avaient programmé les attaques suicides sans tenir compte du moral des troupes, particulièrement l'état-major français,
avec
qui était assez doué pour ça.
Et puis surtout, on s'en tirait sur ses propres positions pour les faire sortir des tranchées, par exemple.
Par exemple.
Autre limite.
Alors, autre limite, c'est que les unités d'artillerie, qui sont très importantes dans le jeu, ne choisissent des cibles à longue distance, des cibles majeures, comme des blindés, comme d'autres batteries d'artillerie. En revanche, elles méprisent complètement les unités d'infanterie qui les attaquent, et souvent, elles se font détruire par ces unités d'infanterie parce qu'elles refusent systématiquement de tirer dessus.
Donc,
c'est un peu bizarre.
Pour jouer à Mech Brigade, il faut un joueur technicien, bon technicien, à tête entièrement froide.
Voilà, c'est un jeu assez compliqué. Il faut savoir qu'en plus du logiciel, il y a des règles qui sont très très explicites, qui font 25 pages. Qu'il faut quand même les avaler, c'est pas vraiment évident.
Ah ben pour bien lire une règle, il faut lire Casus Belli.
Alors, là, voilà, tout à fait.
Avec un article de Jean-Baptiste Dreyfus qui s'intitule « Comment bien lire une règle de Wargame ».
Exactement, il explique dans
Casus Belli. C'est pas 25 pages là, l'article.
Non, l'article fait une page, enfin deux pages en fait. Oui. Et l'intérêt de cet article, c'est ça explique comment progresser dans une règle. En fait, il faut savoir, dans une règle, c'est toujours les mêmes paramètres qui reviennent, c'est toujours les mêmes trucs. D'abord, il faut lire la règle une première fois. Ensuite, il faut souligner vraiment les grandes choses importantes et les corollaires à la règle, on peut d'abord les oublier et éventuellement s'y reporter en cours de partie.
Pour lire la règle de 25 pages de Mech Brigade, il faut lire auparavant l'article de Jean-Baptiste Dreyfus dans Casus Belli qui s'intitule « Comment bien lire une règle de Wargame ?» et prochainement nous consacrerons peut-être une émission, un Radio Passion à « Comment bien lire un article de Casus Belli
voilà, »
et de Jean-Baptiste Dreyfus. Alors, donc, Mech Brigade, on en a parlé, Gettysburg maintenant. Ah non, peut-être un peu de Kampfgruppe parce que vous m'avez dit que ça avait un rapport avec Mech Brigade.
Exactement, l'échelle est la même, un hexagone, enfin un carré fait 200 mètres, c'est exactement la même technique, c'est-à-dire c'est un jeu extrêmement tactique, c'est le même principe de commandement, c'est deux périodes différentes, Kampfgruppe c'est le front de l'Est 1941-1944 et Mech Brigade c'est la Troisième Guerre mondiale.
Alors Gettysburg à présent, c'est la bataille de Gettysburg.
Oui, alors ça c'est un jeu toujours de SSI diffusé par Ubisoft, alors qui lui au contraire est un jeu extrêmement développé. Tout d'abord le facteur principal là est le moral. Et le moral parce que évidemment les troupes vont au feu et dans les jeux de guerre de sécession qui se rapproche du jeu sur figurine, ce qu'on essaie de tenir en compte en premier, c'est le facteur moral.
Mmh. Alors, on a l'impression que plus les armes sont compliquées, moins le moral compte.
Oui, c'est vrai. C'est une erreur en fait. C'est pas parce que dans les guerres, je dirais du 19e et du début du 20e, le choc est très très important qu'il faut oublier dans la guerre du 20e siècle et post 20e siècle le moral. Je crois que c'est pas une bonne idée.
Alors là, facteur moral important dans Gettysburg.
Oui,
facteur commandement.
Et le facteur commandement aussi très important. C'est-à-dire que vos unités vont se trouver plus elles sont éloignées de leur général de division, moins elles auront ce qu'on appelle le point d'opération et moins elles seront efficaces, moins elles seront agressives. Et en plus, l'ordinateur est très très vicieux puisqu'il génère en début de tour le profil psychologique du général, de tous les généraux de division, en fonction de leur situation tactique.
Ça doit être intéressant.
Ça, c'est intéressant. Et aussi en fonction du profil psychologique historique du leader. Parce que vous savez que dans l'armée du Sud, notamment la division de Rodes était un alcoolique patenté et tous ses généraux de brigade étaient aussi des alcooliques. Il est arrivé sur le champ de bataille complètement bourré, véritablement, ne tenant pas debout. Heureusement qu'il était à cheval. Moi, son cheval le portait. Et ça, c'est
son cheval n'était pas alcoolique.
Non, malheureusement, non.
Ça aurait été plus drôle.
Et dans ce cas-là, dans ce cas présent, effectivement, c'est un général de division qui n'est pas vraiment très agressif. Et donc, ces unités ont peu de points d'opération.
Oui, Guy Konopniki, toujours tes réflexions à propos de
ça. Non,
ces
mais
jeux,
ça dépend. Je veux dire, l'effet de l'alcool n'est pas forcément celui-là.
Ah, d'accord.
Mais enfin, dans l'aspect moral des troupes, on a quand même donné la ration de
Niol. La ration de Niol,
la célèbre ration de Niol.
Mais peut-être pour aller se faire tuer, mais peut-être pas forcément pour commander, raisonner.
Bien.
Alors, l'autre intérêt de ce jeu.
C'est qu'on peut jouer à double aveugle.
C'est qu'on peut jouer à double aveugle. D'ailleurs, à ce propos, on peut parler d'un article dans Casus Belli du dernier numéro qui était consacré au jeu en double aveugle.
Oui.
C'est très, très important.
Alors, non seulement ivre, mais aveugle.
Ivre mais aveugle. Alors oui. Ça, c'est important, le jeu en double aveugle, on va expliquer pourquoi. Lorsqu'on est sur une carte de wargame, on voit les pions de l'adversaire et on voit ses propres pions. Donc on peut anticiper ce qui va se passer dans un ou deux tours. En réalité, sur un champ de bataille, c'est pas du tout le cas, surtout dans une période comme ça où on n'a pas de reconnaissance aérienne, donc on ne sait pas véritablement s'il y a quelqu'un derrière la colline. Oui. Donc il va falloir envoyer des éclaireurs pour savoir s'il y a des troupes derrière cette colline. Et donc, lorsqu'on joue... C'est par exemple Austerlitz, tout à fait. Et donc, l'ordinateur ne triche pas. C'est-à-dire que lorsqu'on joue contre lui, s'il y a des troupes qu'il ne voit pas, il ne les voit effectivement pas. Et lorsqu'on joue un joueur contre un joueur par l'intermédiaire de la machine, ça permet justement de surprendre l'autre en faisant des déplacements, en utilisant tout l'art de la manœuvre. Mmh. Et ça, c'est quand même un grand intérêt parce que la guerre ne doit pas se résoudre à l'engagement, je dirais, à la bataille, qui est en fait le dernier bout du conflit. La bataille, c'est le point final. Mais tout ce qui compte, en fait, c'est la manœuvre, c'est le fait d'arriver en parfait état sur le champ de bataille.
La préparation.
Et la préparation, et maximaliser ses chances.
Bon, alors, Gettysburg, entre parenthèses, est-ce que les Américains sont arrivés à résoudre ce problème, savoir si l'Empire romain, c'était avant ou après la guerre de sécession?
Alors là, dans Gettysburg, ils l'ont résolu. Apparemment, d'accord, c'était quand même avant.
Avant.
Et alors, autre chose importante dans Gettysburg, c'est les délais. C'est-à-dire qu'on peut, décider que les renforts arriveront entre 1 à 5 heures d'avance ou de retard. Et ça modifie complètement le champ de bataille et ça désarçonne d'ailleurs l'ordinateur, puisque lorsque on joue contre l'ordinateur, le joueur humain est beaucoup plus fort parce qu'il sait maximaliser son potentiel alors que l'ordinateur a du mal à raisonner à partir du moment où il lui manque une partie de ses forces.
D'accord. Alors nous passons au quatrième et dernier jeu pour aujourd'hui, HMS Cobra.
Alors ça c'est un logiciel
convoi
français.
Convoi vers l'URSS.
Voilà, ceux qui ont lu Convoi vers l'URSS de Georges Blanc savent de quoi il s'agit. C'est les convois de transport que les Anglais et les Américains, dans le cadre du leasing, du pré-bail, envoyé à Mourmansk pour aider l'armée soviétique, notamment en vivres et en munitions.
Donc on part d'Islande.
On part d'Islande et on doit envoyer à Mourmansk, bien sûr, la mer du Nord et l'océan Arctique est peuplée de croiseurs et sous-marins et d'autres destroyers allemands.
Donc un jeu de simulation navale qui n'est pas sans intérêt.
Qui n'est pas sans intérêt, mais qui a aussi des grosses limites. Alors, il n'est pas sans intérêt parce que d'abord, on décide comment on va organiser son convoi, où est-ce qu'on va mettre ses navires de guerre par rapport au convoi. Donc, si vous voulez, une gestion géographique et technique de la création du convoi. Ça, c'est très important parce qu'effectivement, quand on lit les récits de cette période-là, on se rend compte qu'il y a véritablement une stratégie de l'organisation du convoi. Mmh. Ensuite, donc, vos bateaux vont se déplacer. Alors, on peut accélérer le temps pour éviter de passer trop de temps dans le moment où il se passe
c'est
rien.
C'est pas
en temps réel. Vous pouvez brancher une imprimante, ce qui vous permet d'avoir des informations par imprimante lorsqu'ils apparaissent sur l'écran. Par exemple, l'amirauté a repéré un avion à tel endroit ou un sous-marin à tel endroit, ce qui vous permet donc sur votre carte de faire une petite croix, savoir où sont les ennemis. Mais le gros problème, c'est que d'abord, dans le jeu, le matériel qui est fourni est insuffisant. Aussi bien en photocopie qu'en rapporteur, il n'est pas assez précis par rapport au jeu. Et le deuxième gros problème, c'est qu'une fois qu'on est dans un engagement militaire, lorsqu'on doit combattre des bateaux, on ne sait plus où on se trouve. Parce qu'il n'y a pas de carte tactique montrant d'abord, une visibilité...
Il n'y a pas de sextant.
Alors, il y a un sextant qui est fourni avec le jeu, qui ne sert pratiquement à rien. Mais ce qui est grave, c'est qu'on ne voit pas où sont les bateaux, c'est-à-dire qu'on ne peut plus les identifier. C'est-à-dire qu'on a des petits points sur la carte tactique, mais on ne sait pas quels sont ces bateaux-là. Donc, lorsqu'on veut tourner, lorsqu'on veut manœuvrer, on est sans cesse se reporter au cap du navire, donc appeler le navire dans l'ordinateur, savoir quel est son cap, essayer d'approximer le mouvement, enfin avoir une certaine approximation de ce mouvement qui est toujours fausse de toute façon.
Donc pas de navigation à vue.
Alors pas de navigation à vue, c'est très très dommage parce que les Américains avaient avec un jeu comme Silent Services, on voyait très très bien l'angle du navire par rapport à soi, ce qui permet de le suivre et de le poursuivre et pas perdre de temps surtout. Parce qu'il y a encore un truc très très important, c'est que c'est le délai. Et alors le deuxième gros problème, c'est que lorsqu'on engage l'adversaire et lorsqu'on lui tire dessus, on n'a aucune idée des effets qu'on lui fait.
Voilà, donc pour ces quatre jeux, Mech Brigade, Kampfgruppe et Gettysburg de SSI diffusé par Ubisoft et HMS Cobra Convoi vers l'URSS, Cobra Soft, il s'agit d'un logiciel français. Je signale également le dernier numéro de la revue Casus Belli avec les articles que nous avons cités de Jean-Baptiste Dreyfus.
C'était La Tribune des Jeux, actualité des jeux informatiques, de Michel Bidlowski et Pierre Gioux. Extrait de Panorama, est diffusé pour la première fois le 1er mars 1988.